Bonjour à tous et à toutes. Me revoilà pour le cours suivant, c'est-à-dire que je vais vous parler ce qu'on appelle des selfs et des condensateurs, parce que je pense que c'est pas la peine de faire 25 vidéos là, sur le sujet. Donc vous savez qu'en électronique, il existe trois composants de base. C'est vraiment de base. Tout le reste, après, ce sont des accessoires qui sont rajoutés, mais les équations, on va dire... Les équations pour calculer les circuits font avec ces trois éléments. Donc vous avez le R qui veut dire résistance, c'est-à-dire ce qui résiste. Et bien sûr, ça fait sourire un maximum les électroniciens parce que ça s'exprime en ohms. Donc la mesure, ça s'appelle les ohms. Alors, bien sûr, c'est représenté par oméga, l'alpha et l'oméga. Non, mais c'est pour vous dire que vraiment. Donc, ce sont les ohms, ça s'écrit comme ça. Ohm. Ensuite, il y a les selfs. Alors, les selfs, on a utilisé le mot self, même en français, hein, self. Donc, on prend le L pour L, hein, parce que L c'était déjà pris par autre chose. D'accord, hein, donc, on appelle les selfs. Et donc les selfs, alors autant les ohms ici, c'est la symbolique, c'est ça. Voilà, enfin, c'est au milieu, excusez-moi. Voilà. Dans un circuit électronique, on représente une résistance par ça. Vous voyez une circuiterie coudée, hein, donc vous imaginez que ça ralentit un peu le débit, c'est-à-dire. Hein, d'accord. La self, alors je ne sais plus en quoi c'est exprimé, mais je m'en fous, et c'est ce qu'on appelle un solénoïde. C'est-à-dire que c'est une bobine, hein, c'est un fil avec une bobine. Vous savez, vous prenez un tube, parce que la selle, vous allez comprendre, c'est vachement féminin cette affaire. Hein. Donc généralement, quand on veut fabriquer une selle, on prend un tube, d'accord, et puis on a un fil qui attaque ici, et puis qui fait le tour. Hein. On l'enroule, et ça ressort au fil. Voilà, là vous avez une selle. Donc il y en a une self, c'est un solénoïde, c'est-à-dire un truc qui se représente comme ça et puis qui est. Voilà. C'est un enroulement avec des tores. Non, mais c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Pourquoi? Parce qu'on va jouer sur l'effet magnétique. C'est pour ça que c'est toujours enroulé sur un truc. Donc là, la self, c'est on joue sur l'aspect magnétique des choses. Alors que la résistance, on va voir que ça joue plutôt sur. L'aspect électrique du système. D'accord, hein, c'est... Voilà, ça empêche les choses de progresser, alors que ça, c'est l'aspect magnétique. Donc ici, c'est l'aspect, on va dire, bon, je le note ici, hein, c'est l'aspect magnétique. Et on va voir que cet aspect magnétique a des particularités que, on va dire, les physiciens ont compris. On est d'accord ? Mais ils n'ont surtout pas rattaché ça à tout l'aspect spirituel, ce que ça veut dire. Bon, vous savez qu'un moteur, il est fabriqué à partir de bobines. Bon, ok, on en recommence. Non, c'est jeune demoiselle, là. Bon, là, hein, ça veut dire qu'en technique, là, il faut que je recommence mon explication. Un moteur est basé sur le principe électro des aimants, hein, sur l'électromagnétisme. Donc vous avez des aimants dans un moteur. Alors, par exemple, je vais faire l'axe. Sur l'axe, je vais mettre des pôles nord, par exemple. Enfin bon, je mets des pôles, un truc comme ça. Voilà, des pôles. Plus ou moins, on s'en fout. Et forcément, ça c'est le rotor, ce qui tourne, et vous avez le stator, c'est-à-dire ce qui ne tourne pas. C'est-à-dire le châssis de la bécane avec, on va dire, des aimants aussi pareils. D'accord ? Donc vous avez des aimants qui sont situés tout autour, comme ça. Voilà. Hein. Ok ? Vous avez des aimants. Et le but, pour faire tourner ça, vous avez deux solutions. Ça, je le mets sur une aube, un truc qui fait que la rivière, avec sa tourne, ça va tourner. On est d'accord ? Donc, il va y avoir des pôles nord, enfin nord-sud, 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 avec des nord-sud, nord-sud. Alors vous savez que un nord avec un nord, il se repousse. Un sud avec un sud, il se repousse. Mais donc, si je reprends sous une forme différente, ici, je fais un sud. Et là, je fais un nord qui arrive. Le nord, il est là. Et là, il y a un nord. Le nord, ici, il n'aime pas, quoi. Il n'aime pas être en face l'autre. Il va tirer à droite ou à gauche, mais il faut qu'il se barre. Il ne peut pas. Donc, il y a une force qui va le pousser. Alors, généralement, quand on lui met un élan, si on dit que ça tourne dans ce sens-là, il va être poussé par là. Et forcément, celui-là, il dit, viens, mon coco, viens, je t'aime. Puisque et c'est le côté positif. Donc, il attire. Parce que le nord, il a envie de bricoler avec le sud. Vous savez ça, hein, d'accord? Donc, il y a une force, lui, il lui dit, casse-toi, et l'autre, elle lui dit, viens me voir. On est d'accord? Donc là, le truc qui consiste, c'est que quand il arrive là, lui, quand il arrive en face, ben, faut pas qu'il y reste, parce que votre moteur, il s'arrête. D'accord? Donc, quelque part, vous allez avoir un or, une force à contraindre. Ici, il va falloir que l'élan soit suffisamment fort pour combattre celui-là, afin qu'il se retrouve dans ce cas-là. Tac, tac, tac. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive, tout simplement, à faire tourner quelque chose. Les aimants nord-sud. Donc, on fait une roue avec des éléments nord-sud, un stator et un rotor. Ce qu'il y a, c'est que ces aimants-là vont... Forcément, puisqu'on joue sur l'aspect magnétique, ils ont ce qu'on appelle un solénoïde, c'est-à-dire ils ont une spire ici qui récupère et qu'on appelle ça de l'électricité. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements d'électrons. Donc, on se sert de l'aspect magnétique pour fabriquer de l'électricité. Alors ça s'appelle une génératrice. Quand on l'utilise dans ce sens-là, c'est-à-dire là, cet axe-là est relié à une pale de je ne sais plus comment ça s'appelle là. Moulin. Oui, les moulins, enfin bref, c'est pas des moulins qu'on appelle, c'est ce qu'on voit de la maison là. Les éoliennes. Donc vous avez les pales d'éoliennes. Ça vous fabrique de l'électricité. Vous voyez, d'accord? Bien. Et bien maintenant, cette électricité, elle arrive chez vous. Et qu'est-ce qui se passe? On reprend la même chose que ça, je le ramène ici, hein. On le reprend, on le rebranche ici, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'il va se mettre à tourner. Parce qu'en refaisant passer l'électricité dans la bobine, ça crée un champ magnétique qui va pousser l'arbre, et en fait, vous avez maintenant un truc qui tourne. On appelle ça un moteur. Donc un moteur, c'est celui qui reçoit l'électricité afin de transformer dans un mouvement grâce au magnétisme. Une génératrice, c'est qu'on se sert du même moteur, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on se sert du magnétisme pour fabriquer de l'électricité. Ouais, c'est pas compliqué. Ah, c'est vraiment du basique. Et donc tout ça, ça ne peut fonctionner que parce qu'on a enroulé des fils de cuivre autour de la barre, ici. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les moteurs et tout ça, parce que c'est un métier, mais globalement, comprenez que maintenant, avec l'électronique, et avec ce qu'on est capable de faire, on sait que selon le sens du courant dans lequel on va, ça va vous orienter le champ magnétique dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que, grosso modo, vous pouvez rendre un bout de barre soit sud, soit nord, comme vous le voulez. Donc quand vous faites tourner un truc comme ça, vous mettez l'électronique suffisant pour qu'en fait, lui ne voit que des suds en face, quoi. Des tic, 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 pour qu'il aille le plus vite possible. Parce qu'il vous suffit simplement d'inverser le courant pour fabriquer les aimants. Alors évidemment, quand vous avez des super génératrices dans le style EDF, parce qu'ici on peut dire, voilà, je mets tout ça, puis quand je remets tout ça, j'ai du 220 volts. En vérité, comme ils ont de très 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 grosses turbines, ils se disent, voilà, pendant un tiers, enfin, disons qu'ils divisent par 3, parce que c'est pour équilibrer, hein, parce que s'ils mettaient par 4, la génératrice, ça se barrerait dans les... Hein, parce que pendant qu'il y en a deux qui sont attirés, il y en a un qui est en décalage. Parce qu'autrement, si vous mettez tout trop, enfin, au correct, forcément, quand ils vont s'arrêter parce qu'ils sont en face, bah, la machine s'arrête, et là, c'est pas difficile. Hein. C'est l'arbre, carrément, qui sort du bâtiment. Hein. Donc... ils mettent ça, et en fait, vous avez ici un 220, un 220, un 220, vous avez trois phases. Voilà pourquoi, quand vous avez ces trois phases, phase 1, phase 2 et phase 3, eh bien, il vous demande d'équilibrer votre réseau hein, quand vous êtes à la maison. Parce que si vous tirez trop sur une phase, vous consommez beaucoup sur celle-là, parce que dans votre organisation électrique, vous avez mis plein de trucs dessus, puis ici, pas beaucoup, puis celle-là, n'importe quoi, je peux vous dire que EDF, à l'autre bout, ils le sentent. Hein. Ils le sentent à l'autre bout. Hein. Vous en foutez, vous dites, ouais, bah, j'ai piqué, j'ai fait mes trucs, j'ai fait mes machins. Ah, mais... De l'autre côté, ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un risque. C'est que la génératrice, elle se barre en couille. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de courant qui sera tiré sur un, très peu sur les autres ou pas, et donc ça déséquilibre complètement le truc, et puis alors, dès que ça rentre en oscillation, comme ça, on ne peut plus l'arrêter. Hein. Alors le truc, c'est que c'est les génératrices qu'ils ont, elles font quelques centaines de tonnes. Donc vous avez un rouleau qui fait 100 tonnes, qui dégage. Je peux vous dire que le mur que vous aimez à côté, il ne résiste pas. Donc EDF ont une grande expérience des turbines, enfin des turbines, des trucs qui se barrent en couille. Donc ils demandent donc aux industriels, généralement qui ont des gros ampérages, d'équilibrer les phases. Et donc pour ça, il y a ce qu'on appelle le COSFI. C'est-à-dire il faut que le COSFI, c'est... Comment dire ? La différence de courant entre l'aspect, on va dire, excusez-moi, je fais vraiment de la vulgarisation, entre la résistance, entre l'aspect électrique et l'aspect magnétique. S'il y a trop de différence, il y a de la cosse. Et donc, il demande d'avoir quelque chose qui tienne dans le cosphi. Et donc, le cosphi, c'est simplement la capacité d'être dans la fourchette qu'il ne faut pas dépenser, hein, qui est acceptable. Et quand on veut corriger un cosphi, c'est-à-dire la différence entre un aspect électrique et un aspect magnétique, on va utiliser quoi? Des condensateurs. C'est donc condensateur. Car le condensateur, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est de stocker l'électricité. Parce qu'on ne peut pas stocker le champ magnétique. On peut stocker l'électricité. Donc... Si il y a un cosphi qui est trop emmerdant parce qu'il y a trop d'électricité, enfin qui est pompé à un endroit et pas assez aux deux autres, à ce moment-là, on met des capacités, ça se représente comme ça en termes de symbolique, qui servent de réservoir. Donc ils accumulent pour faire que le champ magnétique et le champ électrique, ils arrivent à être maintenus dans une fourchette correcte. D'accord? Donc si vous avez été un industriel, forcément. Parce que dans les industries, dans les usines, ils ne vous disent pas, bon, on vous amène le 220, parce qu'il y a un coco, ça ne va même pas alimenter une machine, là. Hein. Il y a des machines qui suent, ça, quand même, dans l'affaire. Donc, généralement, ils vous installent carrément un transfo. Donc, vous vous retrouvez dans l'usine avec une place à dédier au transfo, quoi. Alors, ils vous amènent 10 000 ou 20 000 volts, et puis l'énergie est transformée sur place. Hein. D'accord ? Et là, après, quand vous avez branché toutes vos machines, tous vos trucs, ils disent, bon, il va falloir corriger, hein, parce qu'on va avoir des ennuis. Hein, hein. Donc là, vous vous retrouvez après avec un parc, avec des condensateurs. Hein. Mais les condensateurs, c'est pour ceux qui sont sur la petite carte électronique, hein, ça je peux vous le dire. Hein, c'est des fuites de 100 litres les uns à côté des autres. Hein. Donc vous êtes obligé de réserver des places pour ça, parce que c'est... Voilà, bon, ben, je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que c'est pas aussi simple que ça, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Par exemple, un truc tout con, qu'on appelle le maillage. Je vous dis ça parce que c'est juste pour vous éclairer un tout petit peu que être électricien, c'est juste tirer des câbles. Si c'était que ça, hein, vous imaginez donc, je dessine un pays XYZ. Je ne veux pas dire la France, mais un pays XYZ. La distribution se fait comme ça. C'est-à-dire vous avez des grandes lignes haute tension qui font comme ça. Et après, c'est envoyé vers des petits centres, etc., pour que ça arrive chez vous. On est d'accord. Le problème, c'est qu'ils disent, ouais, mais là, s'il y a un hélicoptère qui s'écrase, ça coupe là, donc on peut pas. Donc il faut qu'on connecte celui-là à celui-là. Et puis ben, celui-là à celui-là, qui a celui-là à celui-là, etc. Au cas où que si voilà, il y a une tempête quelque part. Bon, à la rigueur. Là, ils seront coupés, mais si on le rétablit par rapport à là, imaginez que ça coupe ici, bah, on pourra refaire une connexion là, quoi. Bon, on se démerde, quoi. Hein. Juste un problème, que les gens n'en ont absolument pas conscience. C'est que là où il y a la génératrice, admettons que c'est ici, c'est la centrale nucléaire locale, elle envoie le courant, mais La turbine tourne, bien sûr. Bon, je suis du côté de chez nous, on dit c'est du 50 Hz, donc elle a sa vitesse. Et en fait, ça fait une onde de déplacement. D'accord ? Le problème, pour ça il y a certains écolos qui n'ont pas tout compris, hein, c'est que si vous vous repiquez là, pour brancher là, alors que celle-ci fait ça, vous avez intérêt d'être en phase. C'est-à-dire que ici, quand vous êtes au creux de la vague, que celle-ci soit au creux de la vague. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vous brancher là, parce que ici, ça va correspondre au sommet de la vague. Alors si vous avez sommet et creux là, vous êtes sûr que vous allez avoir un problème, c'est que vous allez quasiment faire sauter ce qui se passe ici. Donc en vérité, on ne peut pas foutre les pylônes n'importe où. Je sais que c'est quelque chose qui peut paraître con, mais en électricité, nous ne pouvons pas mettre des pylônes n'importe où. Alors, quand c'est des petits pylônes comme ça, là, des petits trucs qui arrivent chez vous, ça ne dérange pas trop, parce que la distance entre le poteau de distribution puis chez vous, c'est que dalle. Mais quand vous parlez en centaines de kilomètres, ben, ça commence à faire là. Et donc c'est pour ça que les lignes haute tension ne peuvent pas passer et dire ouais, bon, ils n'ont qu'à passer à côté du parc, ils font pas chier, etc. Ça complique les choses pour les électriciens derrière, ça complique. Hein. Ça complique. Donc, je dis ça parce que on n'est souvent pas conscient que tout ce qui est généré... Imaginez que quand vous avez 10 centrales nucléaires, il faut qu'elles soient synchronisées par rapport à ça, quoi. Parce que là, il y a une centrale qui est connectée ici sur le réseau, mais celle-là, elle est aussi sur le même réseau. Vous n'avez pas intérêt que cette centrale-là elle soit déphasée par rapport à l'autre. Hein. Parce qu'il y en a une qui va avoir des soucis, là. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans le nord des États-Unis, il y a eu des blackouts pendant certains temps. Et c'était ça qui était arrivé. C'est-à-dire que, grosso modo, à un endroit donné sur une ligne, il y a eu un accident, enfin un accident entre guillemets, quoi. Hein, c'est-à-dire que tous les arbres, ils n'avaient pas coupé les arbres en dessous de la ligne depuis tellement longtemps, que tous les arbres avaient poussé, la ligne haute tension a baigné, à se reposer sur les arbres. Alors, arrive à un moment, hein, puis c'était en plein hiver en plus, arrive à un moment, bloc de glace, tout a cassé. Le problème, c'est que bien sûr, il y en a qui sont trouvés dans le blackout, mais ça a complètement déséquilibré le réseau, qui fait que toutes les centrales, les unes après les autres, par sécurité, sont éteintes. Le résultat, vous avez un tiers des États-Unis qui était dans le noir. Et tout ça, parce qu'ils n'ont pas coupé les arbres sous une ligne de haute tension. Hein. Et, bon, des fois, c'est dû, bien sûr, à des énergies qui sont envoyées par le ciel, qui fait que ça rentre en résonance, machin truc, et puis vous avez une centrale qui ne se sent pas bien, quoi. Hein. Enfin, bon, c'est juste pour vous dire que l'électricité, quand moi j'ai abordé le sujet... À moi, l'électricité, j'en avais les jetons, mais alors, je ne pouvais pas savoir. Tant que je n'avais pas fait mes études, on va dire, universitaires, je peux vous dire une chose. Hein. L'électricité, j'y touchais pas. Hein. Si j'avais les jetons, cette électricité, putain, il se passait des trucs quand même bizarres. Et bon, bah, une fois qu'on va à l'école, qu'on apprend les trucs, les machins, etc., bon, à la fin, vous dites, ok, c'est bon, ça va, quoi. Mais si vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, donc, les condensateurs... Non mais là, c'est même... je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bon, enfin bref, ça s'appelle, enfin ils sont en farade, hein, toujours, vrai farade de Faraday, hein, juste pour que vous compreniez. Mais on parle en microfarade, hein, parce que quand quelqu'un dit, voilà, dans les calculs, voilà, le condensateur doit faire un farade quelque chose, dites-vous bien que la taille d'un farade, c'est grosso modo une piscine olympique qu'il faut remplir. Attendez, le condensateur qui doit tenir sur ma carte électronique, il est aussi gros que la piscine olympique. J'ai dû faire une erreur d'ordre de grandeur dans mes calculs. Hein. D'accord ? Donc, quand on parle en microfarad, c'est... Hein, maintenant, on parle en nanofarad, pour avoir encore moins. Mais voilà, donc le symbole, c'est ceci. C'est-à-dire que toutes les charges vont s'accumuler à un endroit... Voilà. C'est-à-dire toutes les charges positives à un endroit, les négatives de l'autre, et donc ils stockent. Donc ça, un condensateur, ça a plusieurs fonctions. C'est d'abord, c'est du stockage. C'est-à-dire qu'il est là pour stocker. Maintenant, reprenons le cas du plombier que vous connaissez. Bah, c'est votre réservoir d'eau chaude. Qu'est-ce qu'il stocke ? L'énergie. Il stocke bien de l'eau chaude. D'accord ? Bien. Il va avoir aussi une autre fonction. C'est, vous savez, que quand vous avez... vraiment, je prends des, pâquerettes, mais c'est pas grave. Un peu de technique, ça fait du bien. Quand vous avez des radiateurs à eau chaude, avant de les chauffer, ils sont froids. Eh bien, d'accord. Et on sait une chose, c'est que quand on chauffe l'eau, elle se dilate. Donc, ce qui veut dire que si dans votre circuit d'eau, vous avez un mètre cube de flotte, quand vous allez la chauffer à 70, c'est pas un mètre cube que vous allez avoir, c'est un mètre cube 20, j'en sais rien, je donne des chiffres complètement. Ouais, mais les 0,20, vous les mettez où? Donc à ce moment-là, on va parler de vase d'expansion. C'est-à-dire un vase.
On fait un truc comme ça. Donc vous avez votre circuit de flotte, et à l'intérieur, vous avez une membrane qui est gonflée à l'air, tout simplement, hein, et qui a une certaine pression. Et donc, comme elle, ici, elle va monter en volume, eh bien, elle va pousser plus fort ici, et donc, ça va repousser la membrane, mais ça va encaisser la différence de volume.
Donc, votre vase d'expansion est là simplement pour corriger les variations de volume de l'eau. Eh bien, un condensateur, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a un courant trop fort, qui arrive et qui ne peut pas être géré par la résistance qu'il y a là, eh bien, à ce moment-là, elle stocke. D'accord ? C'est le rôle, donc, c'est le rôle de stockage. Alors, le condensateur, ou capa, capacité, hein, on dit, une capa, en général, on ne dit pas un condensateur, parce que là, ça fait long, hein, on dit un condo ou une capa, hein, c'est les deux termes utilisés, eh bien, elle va avoir une capacité à encaisser les différences. Donc, quand vous avez un parasite, là, maintenant, au lieu de prendre de l'eau, on prend l'électronique, de l'électricité. Si vous avez un parasite qui se pointe, le parasite, tac, tac, il vient stocker là, et puis voilà, quoi. Et ici, ça reste régulé. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent, sur les broches de certains trucs, etc., il y a des capas, c'est pour déparasiter. C'est pour encaisser les parasites. Qui fait que votre circuit n'est pas perturbé par les parasites. D'accord ? Donc, ça sert de stockage, de déparasitage. Alors, bon, stockage, je mets déparasitage. Déparasitage. Ouais, c'est comme ça que ça s'écrit. Déparasitage. Non, c'est, je me disais, il y a un truc, là. Déparasitage. Bon, bref, hein, on s'en fout. Voilà, voilà. Et la troisième fonction de la capacité, c'est quand vous avez à démarrer un moteur. Le moteur, au départ, vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Au départ, il est arrêté. Mais comment vous allez le lancer? Parce qu'il y a une force contre-électromotrice. L'effet self. Il faut vaincre la résistance magnétique, parce que lui, s'est mis en position repos, les sud et les nord en face, hein. Forcément. Parce que même si vous allez monter plus en électricité, lui va se caler, mais dans la position la plus favorable. Hein? Évidemment. Donc quand vous allez vouloir démarrer le moteur, il va falloir dire, les amours, là maintenant, il faudra peut-être aller au boulot. Hein. Il faut donc une force. Alors tous les autres, ils sont contre, hein, on est d'accord. Donc il faut vaincre cette force magnétique. Donc il faut, comme dira l'autre, mettre un coup de booster en électron, disons, pousser dans les rames pour qu'on arrive à casser ça, puis qu'ils aillent tous au boulot. Hein. D'accord. Donc la chose, c'est démarrage. Alors, démarrage. Putain, je ne sais plus écrire, je ne sais plus là. Enfin bref, démarrage, moteur. Enfin bon, voilà. Donc généralement, quand vous avez un moteur qui a du mal, par exemple, je prends le dernier cas que j'ai eu avec la chaufferie, truc con. Je dis, putain, j'appuie le truc et puis on n'entend pas le moteur se lancer. Je dis, c'est quoi le bordel? Ben oui, parce que la capacité, à force de bosser, arrive à un moment, un certain nombre d'heures, elle ne bosse plus. Hein, fatigué. Hein. Donc, il suffit de changer le condo, et puis ça repart comme en 14. Truc con, hein. Mais c'est des trucs d'usure. C'est comme un fusible. Les gens, ils disent, ouais, il y a un plomb, là, on a mis le fusible, enfin, il y a un fusible, et puis il a sauté, donc on a eu un problème. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Ça, c'est ce qu'on apprend quand on est dans la technique, quand on est technicien de maintenance, on l'apprend assez rapidement. Un fusible, ça s'use. Parce qu'à force que le courant passe dans le fil, il réarrange les atomes, qui fait que l'atome est modifié, enfin le filament est modifié moléculairement et arrive à un moment. Autre exemple. Non mais le truc, je vous genre comme ça, vous, avez, hein, vous pourrez discuter le soir à table. Les rails de chemin de fer, les rails du métro, les rails de tout ça, pourquoi il faut les changer régulièrement? Parce qu'en fait, quand vous avez un morceau de ferraille qui roule contre un autre, eh bien c'est aimanté. Et comme c'est aimanté, ça change la structure. Alors les roues, quand vous avez une roue qui commence à déconner tout, bah, vous changez la roue. Mais quand c'est le rail, bah, faut changer le rail. Et donc, au fil du temps, par le poids du train et du frottement qui est fait, parce que c'est un roulement, donc forcément ça entraîne des champs magnétiques et tout ça, ça modifie la structure de l'acier. Et comme ça modifie la structure de l'acier, il devient de moins en moins souple, de plus en plus rigide. Et il devient après tellement rigide qu'il casse. Donc ça fait, c'est con quand même. Hein, quand vous êtes là, le chauffeur de la locomotive, puis d'un seul coup, vous avez un rail qui casse. Vous êtes mal. Hein. Parce que quand comme il n'y a que deux rails, s'il y en a un qui plie, vous n'allez pas loin généralement. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut régulièrement changer les rails de tramway, de chemin de fer, etc. Je pars loin de la philosophie là, mais c'est pas grave. Ça vous fait du bien. Donc ici, bah, comprenez que une capacité, c'est tout simplement un individu qui va être capable d'encaisser des différences électromagnétiques et qui ne va pas cogner. Hein ? C'est l'aspect spirituel que je vous dis là. C'est-à-dire qu'en vérité, plus un marcheur il avance sur le chemin, plus il est capacitif. C'est-à-dire plus il est capable d'encaisser les parasites sans brancher. C'est-à-dire son mental ego, c'est-à-dire qu'il n'est pas susceptible, il ne part pas sur ses grands chevaux tout de suite. Quelqu'un vous dit une méchanceté, vous l'entendez. Il y a la capacité, le condensateur qui s'est mis en marche, bon, voilà. Et puis, bah forcément, cette capacité se déchargera à un moment ou à un donné, c'est pas grave. Mais ça n'a pas foutu un coup de bouzou, ça ne vous a pas mis en surtension dans le circuit quelque part. Vous voyez à quoi ça sert un condensateur? Alors, la résistance, on a vu dans la vidéo précédente à quoi ça servait, c'est à réduire, c'est-à-dire à contraindre. Parce qu'il est évident que si vous ne mettez pas de résistance, alors bon, la résistance, je vous ai mis des trucs, donc ça résiste. Donc ici, c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte désirée. C'est-à-dire, si je dis voilà, je mets une résistance sur mon fil électrique, eh bien cette résistance, ça va chauffer. Donc je fais un radiateur. Ou une lampe. C'est-à-dire, on va utiliser le pouvoir du matériau qui va le transformer soit en lumière, soit en chaleur. D'accord ? C'est une résistance. Donc ici, contrainte, et puis c'est pour effet, on va dire, effet thermique ou lumineux. Alors, il y a contrainte dans le sens aussi que si vous dites, voilà, j'ai du 220, puis d'un seul coup, je voudrais avoir, je ne sais pas, du 50 volts, il faut que j'abaisse la tension. Je vais l'abaisser grâce à des résistances. D'accord ? C'est-à-dire que c'est ce qui me permet de pouvoir utiliser à la tension que je veux. Parce que si vous dites, je mets tout en 220, je peux vous dire qu'il y en a qui vont cramer. Vous ne pouvez pas mettre du 220 sur un circuit imprimé de caméscope, hein, parce que vous allez voir le caméscope, il va fondre. Donc il faut bien l'amener à des tensions suffisant. Donc on le fait par rapport à des résistances. Donc quand vous avez des résistances, généralement, on vous donne bon, les couleurs, mais aussi le wattage. C'est-à-dire que quand vous avez une petite résistance, vous savez que vous voyez la résistance avec les queues, là, vous coupez, vous soudez, c'est des demi-watts en général. Demi-watts. Ça veut dire que dès que vous faites passer un demi-watt, après, elle chauffe et elle crame. Et après, vous avez deux bouts comme ça avec un truc noir au milieu, hein, coupé, généralement. Hein. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une intensité qui dépasse ben, ce qui est prévu, elle fume. Bah. Donc, si vous dites, voilà, je voudrais bien avoir, par exemple, on va aller prendre un truc, je dirais, bah ouais, j'avais besoin d'une 20 ohms, mais d'accord, mais en combien de wattage? Demi-watt, bon, c'est bon. Ah, mais je la veux en 20 watts. Ah. Et là, votre résistance qui était grosse comme ça va devenir grosse comme ça. Hein. Parce qu'il faut qu'elle dissipe les 20 watts. Il faut qu'elle soit capable de dissiper, d'encaisser les 20 watts sans partir rejoindre le bon Dieu. Hein. D'accord ? Donc le wattage est important. Alors, contrainte, effet thermique, lumineux. Hein. Alors, contrainte, bon, pour abaissement de tension, etc., etc. Et la self, c'est l'aspect magnétique des choses. L'aspect magnétique. Donc, parce qu'on fait introduire, effectivement, quand on fait de l'électricité, vous avez bien sûr l'aspect magnétique et l'aspect électrique. Or, vous savez que la nature, elle est équilibrée, elle. Ça veut dire que si vous jouez sur le côté électrique, le magnétique, il va revenir à la charge de suite et instantanément. Même à la rigueur, il commence déjà à agir avant même que le courant. Parce que ça, c'est des trucs, tous les physiciens vous le disent pas. Et les électroniciens, ça leur passe un peu des fois un peu au-dessus. Mais quelque part, comme je vous ai dit, vous prenez un moteur. Alors un moteur, généralement, je crois que c'est représenté comme ça, il me semble. C'est-à-dire que y a les deux électrodes. Hein, et puis, ça vous fait tourner le bits. Quand il a arrêté, il est en arrêt. Vous voulez lui envoyer du jus, le mettre en route. Vous imaginez, vous envoyez du jus ici, et là il fait quoi là? Lui, il est déséquilibré. Hein. Donc, d'une certaine manière, avant que le jus arrive à passer de l'autre côté, hein, c'est-à-dire que les électrons qui passent là, ils arrivent à passer là, il va falloir qu'il vainque une contre-force. D'accord? Et cette force est d'origine magnétique. Parce que le masculin et le féminin est équilibré. Alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'en fait, le côté selfique, en vérité, si on regardait vraiment, je ne sais même plus les noms des appareils, c'est quand même dingue, au truc temporel, là, oh putain, j'ai pu, enfin bon, bref, hein, vous comprenez comment on me vide la tête, hein. On regarde, eh bien, on se rend compte que le magnétique réagit avant même que l'électrique arrive. Il anticipe. Ça veut dire que, grosso modo, tu es là appuyé sur le bouton de l'inter, tu n'as pas encore appuyé, que déjà, il commence à réagir. Puis tu t'approches de l'inter, hop, ça commence à réagir. Tu t'éloignes, ok, ça fait plus. Hop, hop. Tu dis, mais c'est quoi là? Alors, j'ai à dire, pour les physiciens, physiciens, électroniciens, enfin, tous ceux qui sont dans la 3D avec la physique de 3D, ils n'ont jamais essayé de comprendre pourquoi. Hein. Ils n'ont pas essayé de comprendre pourquoi. Ils disent cet effet selfie qu'on est obligé de le prendre en compte. Mais, véritablement, c'est. Voilà, hein, on va dire, c'est. Alors, ils font avec, alors ils ont toutes les équations, ils font avec. Mais ça fait. Et moi, ça m'a intrigué, ça, quand même. Et comment ça se fait que le circuit commence déjà à réagir alors que tu n'as même pas encore agi? C'est comme, vous savez, je vous avais dit, les aimants nord-sud, ils sont tous ensemble, ils sont au chaud, au lit, tout ça, tout va bien. Puis ils entendent une alarme qui dit, attention, on va vous demander de vous habiller, d'aller au boulot. Ils se préparent, quoi. Ils disent, oh, vous êtes d'accord? Alors, quand effectivement, paf, ça y est, c'est parti, ça va être l'heure, t'enfisses le pantalon et tout, et puis t'y vas, quoi. Hein. Mais il y a une résistance, quoi. Tu dis, faut. Et en fait, cet aspect selfique, c'est pour ça que self, ça veut dire le soi. Le soi, S-O-I. Hein. Ça veut dire que quelque part, c'est comme si, mais c'est quand même con à dire, c'est comme si votre esprit avait déjà dit à la matière, voilà ce qui va se passer. Il va falloir que tu équilibres le déséquilibre qui va te mettre dans les dents. Non, mais c'est ça, hein, le truc. C'est dingue. C'est-à-dire que l'aspect selfique est une contre-réaction avant que la réaction arrive. Ah, moi, ça m'a scotché, ça. Alors, bien sûr, les profs ne s'étendaient jamais sur le sujet parce qu'en fait, ils avaient foutrement aucune idée de pourquoi, quoi. Hein? D'accord? Donc, ceci, cet aspect magnétique, est, comment dire, est une force avec laquelle on va jouer. Mais dans quel cas on va jouer avec cette force? Parce que généralement, quand c'est pour des moteurs, tout ça nous fait chier. On va me le reconnaître. eh ben, on va l'utiliser pour tout ce qui touche à la radio et comment capter les ondes. Puisque,
je vais le représenter d'une autre manière.
Non mais c'est beau quand on regarde la physique sous des angles très différents. Alors bien sûr, il y a les théoriciens tout qui pourraient me reprendre, mais bon, désolé, ça fait longtemps que je suis sorti de l'école et puis entre temps on m'a effacé les banques. Hein, mais donc,
s'il vous plaît, un peu d'indulgence. Mais grosso modo, c'est ça. Quand vous aviez une ancienne radio, vous savez, avec les vieux composants là. D'accord ? Mais qu'est-ce que vous aviez ici ? Vous aviez en fait.
Une bobine qui était montée sur un truc qui était généralement en carbone, d'accord, et qui servait quelque part d'antenne. Et ensuite, vous mettiez ce circuit-là, vous le reliez, enfin, je vraiment, c'est schématique, hein. Vous le reliez avec ce qu'on appelle un variateur, c'est-à-dire, un variateur, ça se représente comme ça, c'est une résistance variable. C'est-à-dire que vous aviez tout simplement ici une résistance sur laquelle vous avez ici un contact qui relie ici. Enfin bon, à peu près comme ça, quoi. Ouais, c'est comme ça. Donc le résultat, le courant, soit il vient là, soit si vous mettez votre curseur ici, il est au tout chemin là à faire, donc c'est une résistance variable. Et donc cette résistance rentre en résonance par rapport à la self, qui fait que vous pouvez capter la fréquence que vous désirez. Donc pour ça, pour mieux capter, on mettait une antenne. Or une antenne, c'est quoi? Ça véhicule un signal qui est en fonction de terre-mère. C'est-à-dire que grosso modo, si je reprends, on va dire terre-mère, ben vous mettez votre antenne, vous avez terre-mère ici, c'est un signal électromagnétique. Et la masse, c'est terre-mère. Donc quand vous avez une station qui envoie un message, en fait, ça propage des ondes électriques, d'accord, qui peuvent rentrer là, après. Mais ces ondes sont en comparaison par rapport à terre-mère. Ok ? Donc votre circuit ici, ça vient ici, vous avez une variation, vous dites maintenant, ici, dans mon antenne, alors une antenne, c'était foutu comment avant ? C'était un morceau de ferraille, enfin de ferraille, un truc, sur laquelle les ondes, alors on appelle ça un guide d'ondes, pourquoi ? Parce que quand vous aviez les ondes radioélectriques qui venaient, ils venaient frapper le truc, ce qui créait des ondes. Et donc, selon l'émission, si je prends ça, c'est une longueur d'onde précise, si là-bas, il y en a une autre qui fait plutôt ça, j'aurai une autre onde. Donc ici, grâce au variateur et à ce truc-là, je pouvais donc recapter ce qui se passait là, dans mon antenne. D'accord ? Donc, en résumé, un solénoïde, enfin un solénoïde, une self, est quelque chose qui va, entre guillemets, jouer avec l'aspect magnétique des choses. Donc ici, on a une problématique, alors je vais tester ton de là, on a une problématique quand ce sont des ondes radioélectriques. Les ondes radio, sur la longueur d'onde, et électriques, parce qu'on envoie en fait des choses électriques, mais qui vont faire bouger, bien sûr, l'aspect magnétique de terre-mère. Et donc là, on va avoir un problème, parce que ici, ces composants-là, enfin ces bouts de ferraille, là, vous savez, quand les antennes avec les râteaux, il ne faut pas croire que, vous savez, ils avaient le fil, et enfin, un truc principal, puis après, vous avez des petits comme ça qui étaient mis. Ils n'étaient pas mis à n'importe quelle distance. Ils étaient faits pour que l'onde puisse passer certaines à d'autres. Et à ce moment-là, vous pouviez les capter et avoir quelque chose à peu près précis. D'accord ? Alors, les guides d'ondes, au niveau de la biologie, ici, ça s'appelle les cheveux. Un cheveu est tout simplement un truc creux, d'accord ? Alors, on a fait avec, bien sûr, de la matière dans laquelle les ondes peuvent se propager. Donc, les cheveux sont des guides d'ondes. Et vous avez des guides d'ondes où ? Principalement sur le crâne, normalement, hein, on est d'accord, hein. Pourquoi ? Parce qu'en dessous, là, ben, vous avez le septième, et puis il aimerait bien choper un maximum d'ondes. Hein. On est bien d'accord ? Après, bah, quand vous écartez les cuisses, vous avez aussi un guidon de là. Hein, on est d'accord. Et puis, bah, vous en avez sous les bras aussi. Quand vous regardez, même les gens qui ne sont pas poilus, sur, bah, vous regardez, ils en ont sous les bras, ils en ont entre les jambes, et puis sur le crâne. S'ils n'ont pas le crâne, ils ont la barbe. Alors, on va dire, mais pourquoi les hommes, ils sont poilus, ils ont la barbe et tout, contrairement aux dames. C'est une moyenne, hein, d'accord, hein, si j'ai des dames, ils sont vraiment... Hein, pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi un homme est plus barbu à 40 ans qu'à 20? Parce que tout simplement, puisqu'il est dans sa géométrie et qu'il est coupé du monde, plus il est coupé du monde, et plus il faut que le corps développe des antennes. Parce qu'il est coupé. Voilà pourquoi, en règle générale, l'homme est plus souvent poilu que la dame. Parce que la dame est plus proche d'être dans la vibration, elle est plus dans la vibration, puisque sa Merkaba tourne dans le sens évolutif. Donc elle a moins besoin d'être poilue. Vous voyez le truc? Alors pourquoi les dames, ils se soucient de leurs cheveux et tout? Ouais, c'est pour être mignonne et tout. Non, mais c'est parce que, au fin fond, là, elles savent que c'est quand même les antennes. Ah ouais, mais alors un Bouddha qui était tendu et tout. Ben oui, mais c'est que les entêtes sont tombées, certes, mais c'est qu'il n'en avait plus besoin. Alors pourquoi chez les hommes, ça tombe ici, et pas sur les côtés? Ben parce que c'est là que c'est l'entonnoir. Donc c'est là que ça chauffe le plus. Donc les cheveux, ils vont tomber chez les hommes pour plusieurs raisons. D'abord, par une activité cérébrale intense. Vous allez dire, mais quel rapport? Ben si, il y a un rapport. C'est que tout simplement, le cerveau, vous savez que le cerveau consomme la grosse majorité de l'oxygène qu'il y a dans le sang. Et pourtant, il ne représente pas grand-chose, le cerveau, par rapport au reste. Ben, ce qui se passe, c'est que, globalement, plus le cerveau va fonctionner, plus, en fait, la racine des cheveux va être appauvrie en oxygène. Donc, le cheveu tiendra moins. Donc, il va tomber plus facilement. C'est con. Donc les gens que ça décoiffe ici, ça ne veut pas dire que ceux qui ont encore tous les cheveux, ils ne réfléchissent pas, ils sont cons. J'ai jamais dit ça. Parce que ça va dépendre de votre ADN, etc. Parce qu'il y en a quoi que vous fassiez, même si vous êtes un QI de 70 et que truc, vous serez quand même décapé. Pourquoi? Parce que dans le code génétique, vous l'avez hérité des parents. On est d'accord? Hein, mais peut y avoir vraiment des choses incroyables. Moi, j'ai deux enfants, du côté, on va dire, mélangé avec de l'asiatique. L'aîné, il n'a même pas un début de calvitie. Hein. Mais il a quoi, 37 ans, il n'a même pas un début de calvitie. Son frangin, qui est venu juste après, ah ben, il me ressemble, là. Avec, il en a 36. Hein. Elle est quasiment chauve dessus, là. Donc, vous dire, pourquoi j'ai deux gamins, pourquoi il y en a un, il est déjà dégarni, alors que l'autre, rien. Bon, ça veut dire qu'il y a un aspect, on va dire, aussi génétique, important. On est d'accord. Mais c'est pas seulement le truc. Hein, d'accord. C'est-à-dire que, voilà, quoi. Et puis, bah, l'autre chose, après, moi, j'ai dit aussi, c'est parce que les lits étaient trop courts et je frottais trop souvent le mur. Donc, c'est... Bon. Mais c'est pas faux, hein, mais... enfin, bref. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, quand vous avez la couronne et quand vous verrez les 12 étoiles de Marie, vous verrez que ces 12 étoiles de Marie correspondent pratiquement à la naissance des cheveux aussi autour. C'est-à-dire en dessous, bah, ça tient, mais au-dessus, c'est la calotte et ça correspond donc à l'ouverture de votre double hauteur, donc à votre couronne. Donc tout ce qui est là, ça chauffe, voilà. Et donc, ça dégage. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes, entre guillemets, qui perdent, quand ils perdent en haut, ils laissent pousser les cheveux là pour avoir la petite queue tout, parce qu'ils essayent de compenser cette perte d'antenne. Et donc, plus le temps passe, et plus vous allez voir que, chez les hommes, plus vous devenez poilu. C'est-à-dire que la barbe s'intensifie, les trucs, les poils, alors avant, moi, j'avais les poils très fins, tout, pratiquement pas, maintenant... Il y a des poils partout, ça devient des arbres, quoi. C'est des troncs d'arbres, quoi. Je veux dire, mais putain, d'où ça sort? C'est parce qu'en fait, c'est fait pour compenser, pour mieux capter, parce qu'il y a une déficience. D'accord? Bon, enfin, c'est des... juste dire qu'un cheveu, c'est simplement une antenne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc oui, donc ici, quand nous utilisons, quand nous avons quelque chose ici, comme des antennes, qui ont affaire avec beaucoup de champs magnétiques, on ne parlera plus en résistance. Enfin, on va dire c'est une résistance, mais au lieu de parler en ohm, on parlera en impédance. C'est-à-dire que c'est une résistance qui va être variable, hein, qui va être variable en fonction des ondes. Donc on parle d'une impédance. Donc par exemple, si vous avez des haut-parleurs, alors l'électronique, il y a des résistances, tout. Et quand on arrive au niveau des haut-parleurs, comme vous savez que c'est un champ magnétique avec un aimant, et l'aspect magnétique est important. Et à ce moment-là, les lois de résistance, dire oui, c'est juste un rétrécissement de tuyau, ça ne suffit plus. Parce que ce rétrécissement de tuyau va dépendre en fait du champ magnétique. Donc le résultat, on va parler d'impédance. D'accord ? Alors là, je vous ai décrit grosso modo tous les trucs, c'est-à-dire que si vous reprenez maintenant un circuit XYZ, et y compris l'être humain, parce que maintenant, il faut rapprocher ça d'un point de vue, on va dire, spirituel, n'est-ce pas ? Donc, d'un point de vue spirituel, nous sommes une résistance. On met la tension, alors si je représente la résistance, on est là. On est une résistance, on est d'accord ? Simplement, si nous introduisons là-dedans un effet magnétique important, cette résistance va se transformer en impédance. Ah, d'accord ? Hein ? Alors vous connaissez, il y a l'impédant et il y a l'impédance. Bon, enfin bref. Donc, quand il y a trop de magnétique, donc maintenant je vous fais des petits schémas, hein. Ça c'est l'être humain, vous voyez, hein. Quand ici, vous avez un peu trop de magnétique, vous êtes une impédance, c'est-à-dire qu'en vérité, votre résistance va être variable en fonction de votre ouverture de cœur, de votre capacité à capter les ondes, à développer votre aspect féminin. Vous voyez ? Et ensuite, eh bien, l'aspect capacitif, c'est simplement ce qu'on appelle la bibliothèque. C'est-à-dire que vous allez avoir cet aspect capacitif, c'est, par exemple, c'est la mémoire. La mémoire est un aspect capacitif. C'est-à-dire que vous allez vous rappeler de sensations, d'impressions ou d'informations. Et ça, c'est stocké. Donc si vous maintenant vous regardez comment est fait une mémoire d'ordinateur, parce que c'est vrai, on peut se poser la question, et bien en fait, une mémoire d'un truc d'un ordinateur est relativement très simple. C'est une grille, forcément. C'est une grille. Et à chaque intersection, vous avez un condensateur. Donc il y a deux solutions. Donc quand vous dites je mets un 0 ici et puis un 1 là, hein, j'atteins celui-là, hein, par exemple, hein, je fais dans le détail, eh bien le courant va passer, et donc soit il vous le met à 1 ou soit il vous le met à 0. Aussi con que ça. Et donc voilà pourquoi vous avez ce qu'on appelle le rafraîchissement. C'est-à-dire que si votre kappa, elle n'est pas parfaite. Hein. Donc elle va se décharger avec le temps. Okay. Donc régulièrement, il y a un refresh qui est fait, qui renvoie un petit coup de jus à tout le monde. Et ceux qui sont à 1, parce que bon, je vous donne un ordre d'idée. Hein. Ici, on dit 0 volt, et ici, 1 volt. D'accord ? Alors, le truc, enfin, de mon temps, hein, parce que maintenant, c'est juste à titre d'exemple, on disait c'était à 0 volt quand ça tombait pratiquement à 0,4. Enfin, 0,4 ou je ne sais plus. Et puis, quand c'était au-dessus de 0,4, enfin, on va dire 0,6, on considère que c'est du 1. Peut varier, on est d'accord. Et bien le résultat, on envoyait un refresh, ceux qui étaient là, et bien ça remontait le jus ici, mais ceux qui étaient à 0, ça les remontait à 0,2, 0,3, mais voilà, donc ils restaient à 0. Donc c'est pour ça que vous avez des fréquences de rafraîchissement quand vous prenez vos barrettes de mémoire vive, et bien il y a bien sûr la quantité qui est indiquée, c'est-à-dire le nombre de condensateurs qu'il y a, Si vous dites c'est 10 gigas, ben, ça veut dire qu'il y a 10 gigas condensateurs dans votre truc. Hein. D'accord ? Et donc ça c'est ça. Et ensuite vous avez généralement une fréquence. Une fréquence d'utilisation qui est liée forcément à une fréquence de refresh. Et donc si votre ordinateur n'est pas capable d'envoyer la fréquence indiquée par rapport à celle-ci, eh bien à ce moment-là, le refresh ne peut pas se faire et donc vous ne pouvez pas utiliser votre RAM. Vous ne pouvez pas utiliser votre petite carte mémoire. D'accord ? Donc en fait, les mémoires, c'est des condensateurs. C'est bon la technique, hein ? Je crois qu'on en apprend hein, des choses comme ça. Là, hein ? D'accord ? Donc ici, vous avez les trois choses. Au niveau du corps humain. Donc évidemment, vous savez que l'aspect magnétique est relié à ce que est fortement relié à l'émotionnel. Donc admettons que vous ayez une charge émotionnelle haute. Vous allez avoir un effet selfique qui va se faire sentir. Et on sait que si l'effet selfique est important, l'effet électrique, lui, il ne va pas avoir beaucoup de droit au chapitre. C'est-à-dire que vous avez un sujet qui vous préoccupe. Vous êtes tellement focalisé dessus. Et c'est tellement lié à de l'émotionnel que vous en devenez totalement irrationnel. Et quoi que vous fassiez, quel que soit le circuit de résistance qu'il peut y avoir, c'est pas grave, vous avez priorité. Et donc vous êtes incapable de réfléchir. Parce que vous êtes lié à une charge émotionnelle. Ça veut dire que vous êtes lié à une self qui... Et voilà, donc il faut calmer le jeu. Et une fois que vous avez calmé le jeu au niveau selfique, c'est-à-dire que la charge s'est répartie, vous dites, ok, maintenant, on peut reprendre des choses et regardons avec un certain recul ce qui se passe. Donc quand vous êtes baigné dans un champ magnétique, vous avez un champ magnétique, vous en rajoutez un, de toute façon, c'est toujours un champ magnétique. Et là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas besoin de fil. Hein. Et pour l'électrique, il faut passer des fils. Hein. Il faut faire des connexions, il faut faire des trucs. Le magnétique, vous n'avez rien besoin de tout ça. Hein. Ça veut dire que le magnétique est capable de se transmettre hors réseau. Donc, quand une personne rencontre une autre personne, alors je vais dessiner un mot là, hein, on va être tranquille. Forcément, dans leur aura, ils ont forcément un corps émotionnel, des charges émotionnelles, et donc évidemment, ils vont s'appareiller en fonction d'un certain nombre de choses, quoi. Hein. Et donc, s'ils partagent, on va dire, c'est-à-dire que si lui vient avec son gros chagrin d'amour, l'autre il va se dire, ah putain, à t'a plaqué ou quoi, hein, tu vois, donc il va tomber dans la compassion, il va tomber dans le truc et dire, mais attends, je veux t'aider. Vous savez, quand on regarde tous les trucs, on se dit, mais putain, on n'est que des circuits. Et ça, je vous l'ai dit. On n'est que des circuits. Alors, maintenant, imaginez que vous mettez la demoiselle ici, voilà, hein, vous mettez la demoiselle ici, là. Ben, je peux vous dire que les deux qui est à côté, va se passer des choses. Hein. Ça dépend de combien magnétique la demoiselle elle va être. Hein. Il y a un effet self. C'est-à-dire que même si elle se pointe, même si elle est à 200 mètres, les autres, ils vont commencer à baver. Alors, c'est quoi qui t'a dit, c'est quoi là? C'est qu'il y a un champ magnétique. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais c'est la lumière. Oui, mais la lumière, c'est quoi? C'est une onde électromagnétique. D'accord? Alors, vous allez me dire, attends Laurent, tu vas loin là. Oui, non, mais je ne vais pas loin, parce que plus la personne rayonne, et plus elle va envoyer grave. Et du débit. Hein. Donc si vous montez en fréquence, vous allez devenir un lampadaire malgré vous. Alors, il ne faut pas le croire comme dans les peintures où on présente Jésus ou d'autres saints, ça brille de tout feu. Ça, c'est une vision, on va dire, très matérialiste, géométrique, c'est-à-dire de la lumière. Mais en vérité, le champ magnétique, il en est où là? Parce que c'est votre champ magnétique qui va rentrer en liaison directe avec les autres, pas votre champ électrique. Et il y a des fois, on peut dire qu'il y en a certaines qui devraient se taire. Parce qu'elles sont super mignonnes, ça rayonne tout, tu leur poses une question, ils te répondent, oui, bébé, ça va. Oui, oui, Hollywood. C'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle dégage magnétiquement. Donc vaut mieux pas qu'elle montre leur géométrie et leur côté électrique, hein, il y en a certaines. Mais pour les mecs, c'est pareil. Il faut équilibrer un peu quand même. Mais c'est pareil, quoi. Hein, c'est, vous pouvez voir des gens qui sont, enfin, des mecs qui sont vraiment beaux, qui sont... Puis vous rendez compte qu'en fait, derrière... Ok, c'est bon. Passons notre chemin. Hein. Donc ça, c'était juste pour vous faire comprendre. Alors maintenant, on va aller, si vous le permettez, un tout petit peu plus loin. Parce que ceci relève de la physique de 3D. Quand j'ai compris par les 3D, par les scientifiques de 3D. On est d'accord. Mais si on veut pousser la chansonnette plus loin, en vérité, ceci est une présentation à coup de serpe. Quand il y a une présentation. Il y a les résistances, il y a les selfs, il y a les capas. Mais en vérité, c'est pas vraiment comme ça. Si on veut vraiment aller pinailler, c'est pas ça. C'est les grandes familles. C'est comme si on disait, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les blacks. Ok, c'est les grandes familles. Mais ça ne vous donne pas le détail. Hein, et vous dites, c'est quand même bizarre, parce que là, quand même, le jaune, il a tendance à réagir des fois comme le black et aussi comme le blanc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc, là. C'est qu'en vérité, un composant, quelle que soit la matière que vous utilisez, sera une résistance, un solénoïde et une capa. Les trois à la fois. Vous prenez un fil électrique. Vous dites c'est une résistance. Pourtant, je peux mesurer le champ magnétique en fonction du courant qui passe dedans. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il est aussi capacitif. C'est-à-dire que même si vous envoyez un électron ici, c'est pas dit qu'il va en sortir. Parce qu'il a une capacité d'absorption. Ah. Alors, vous allez me dire, elle est tellement faible. Parce que c'est vrai, je lui envoie 100 millions d'électrons, il n'en garde qu'un de côté. Vous allez me dire, c'est dérisoire. Oui, mais il est capacitif quand même. D'accord? Alors il dit, ouais, mais là, il est en supra machin truc. Hein, c'est résistance zéro, bah, tu découvres qu'il est complètement magnétique à fond les manettes et que oui, il a bien, voilà. Donc ce qui veut dire que quel que soit le composant que vous prenez, que ça soit une résistance est par définition résistante, on est d'accord, mais va avoir un effet selfique et aura un effet capacitif. Maintenant, vous regardez une self, vous dites, bah, c'est bien, il y a un côté magnétique, mais vous allez voir que dans la self, il y a aussi du courant qui pousse. Et puis qui va être capacitive. Et que quand vous regardez votre condensateur, vous dites mon condensateur il est là, mais il est aussi magnétique puisqu'il charge les charges plus d'un côté, les charges moins, donc il a un champ magnétique, évidemment. Hein. Et puis si vous foutez le doigt sur les deux trucs, vous allez voir qu'il est électrique le petit là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quelle que soit la matière que vous prenez, nous voyons bien que nous sommes dans un monde électromagnétique qui possède ces trois capacités. Vous pouvez prendre jusqu'à l'atome. L'atome est aussi capacitif, selfique, et pas capacitif, selfique et résistif. Je prends un atome. Non, mais c'est pour vous montrer que, en fait, ça, c'était des grosses catégories pour faire des gros circuits, etc., qui vont griller dès que Papa Soleil il va envoyer une salve. Tout ça, ça va cramer. Hein. Donc, vous prenez un électron, enfin un atome. Vous allez voir que cet atome est capable d'emmagasiner de l'énergie. Puisque quand vous le chauffez, il se dilate. Il est bien capacitif. Eh bien d'accord. Donc un, c'est une capacité. Vous dites c'est une résistance. Bah oui, si elle lui envoyait un truc sur dans le corps, vous allez voir qu'il ne va pas se laisser faire. Hein. Donc il y a bien une résistance. Parce que sinon, on ne ferait pas de résistance chauffante. Hein. Donc il y a bien une résistance. Et puis vous allez voir que du côté magnétique, que si vous essayez de faire pénétrer votre électron là pour qu'il aille jusque là, bah, ça ne marchera pas. Hein, à moins que vous soyez dans une centrale nucléaire et que ce soit de l'uranium. Parce qu'en vérité, parce qu'il faut dire une centrale nucléaire, on accélère les électrons pour qu'ils arrivent. Ils arrivent à justement casser le bouclier magnétique. Pour le casser en deux. Parce qu'en le cassant en deux, cette énergie magnétique, c'est énorme. Parce que c'est de la gravitation, je vous signale à ce niveau-là. Une force d'amour. Donc quelque part, quand vous prenez ne serait-ce qu'un seul atome, il est résistif, parce que quand tu l'envoies un, ben, ça fait ça, et puis après ça passe sur les côtés. Hein, il est capacitif, parce qu'il est capable d'absorber les chocs, et donc d'augmenter ses différentes couches, et donc de... Voilà. Et il est... enfin, donc résistant, selfique, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas le pénétrer. Alors, quand vous partez d'un atome qui possède ces trois qualités, croyez-vous qu'en rajoutant plein d'atomes, vous aurez, vous aurez pas ces qualités? Ben si, vous les aurez. Donc là, on a affaire, là encore, à un niveau fractal. Donc maintenant, regardez par rapport à vous-même. Vous êtes composé de milliards, de milliards, de milliards d'atomes. Vous êtes capacitif. C'est-à-dire, vous engrangez de l'information, qu'elle soit lumineuse, thermique, informationnelle, elle vive. Vous emmagasinez. D'accord? Ensuite, vous avez une résistance. Parce qu'effectivement, si quelqu'un vous dit, bah, tu sais, là, ce que tu crois, machin, c'est de la gnognotte, c'est de la bord, enfin, c'est de la merde, ça serait plutôt ça, vous allez sentir que quand même, vous avez une résistance à la chose. Hein, d'accord? Et puis, bah, la fée selfie, ça va être simple. Hein, c'est que vous allez montrer les dents et puis vous allez lui en mettre une si vraiment il insiste. C'est-à-dire que le côté magnétique émotionnel va prendre le dessus. Donc, si quelqu'un vient vous rentrer dans le coffre, vous allez quand même avoir une réaction, quand même. Hein, c'est l'aspect selfique. Et cet aspect selfique peut se révéler avant même que l'autre vous ait rentré dans le coffre. Donc, quand vous êtes dans la maison et que vous allez appuyer sur le bouton pour allumer la lampe sait déjà votre intention. Vous voyez ? C'est pour ça que quand on dit toute matière qui a été créée par terre-mère a une conscience, c'est vrai. La lampe, à chaque fois que j'allume, elle sait que je vais l'allumer. Hein. Elle s'y prépare avant même que j'ai appuyé. Et puis si j'appuie pas, elle relâche l'attention. C'est fou, hein, quand on regarde le monde sous cette forme-là. Mais bon, faut pas que ça nous rende fous quand même. Mais c'est la vérité. Bon, je crois que c'est pas la peine que je vous en dise plus. Je pense que vous avez compris le phénomène. Hein, la résistance, c'est l'aspect électrique qui va résister à un électron. Le condensateur, c'est celui qui capte l'électron en rab pour éviter les surtensions, le bordel, etc., qui va accumuler. Donc on voit que ça, c'est deux géométries et que ça, c'est l'effet magnétique. Voilà. Voilà, les cours du chef en électronique sont terminés. Parce qu'après, on peut prendre n'importe quel circuit, hein, le circuit RLC, qui est le circuit RC, enfin tous les circuits de base. Et quand vous regardez un circuit électrique, mais sincèrement, vous comprenez ce que ça veut dire quand vous avez compris ça. Vous voyez ce qui se passe. Ah bah oui, ça. Ah bah je sais ce qui se passe là maintenant. C'est ça la lecture intuitive quand vous avez accès à une information que vous avez compris. Ça, ce n'est qu'une densification de ce qui existe déjà en moi. Il suffit juste de comprendre comment vous fonctionnez, et puis bah bon, le reste, ça, c'est de la gnognotte. Hein. De toute façon, l'homme n'invente rien, il ne fait que sortir des tripes ce qu'il a déjà. Ouais. Alors, ai-je d'autres quelque chose à dire? Parce que je regarde le truc. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour l'instant. Hein. Donc, la radio libre céleste, hein, d'accord, est simple. Non mais, je vais plus loin. La radio, c'est une résistance. On joue par les ondes radio, qui sont des ondes électromagnétiques. Donc on joue sur une résistance à les recevoir. Donc si vous voulez recevoir la radio, comme dirait l'autre, soyez plus dans l'impédance. Hein, c'est-à-dire, soyez moins résistant. Hein, laissez-vous. Voilà, hein. Ensuite, libre, parce que l'aspect magnétique est libre. Il n'y a aucune frontière physique à l'aspect magnétique des choses. Se fout qu'il y ait des atomes ou pas. Qu'il y ait de l'air, qu'il y ait de l'eau, s'en fout. Un champ magnétique, c'est un champ magnétique. D'accord ? Et puis céleste, pourquoi ? Parce que céleste, c'est le réservoir de toute l'information, de toute la création. Donc vous avez, par cet effet RLC, la radio libre céleste, vous avez accès à la totalité de toutes les informations. Et comme vous le connaissez maintenant, la matière n'est ni plus ni moins que le QHF. C'est-à-dire une histoire de quanta, d'holographie et de fractalité. C'est veut dire que le moindre atome en vous possède la totalité de toutes les connaissances de tout ce qu'il y a. Le tout est compris dans le tout. Voilà. Bon. Vous voyez que c'était bien Radio Libre Céleste quand même. Hein ? Allez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis donc à la prochaine. Merci !